Bonne journée à l'équipe du 5-7. France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Desmorand. Le 7-9.
Mercredi 30 janvier, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Nasser Madji, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la tempête Gabriel. Vigilance orange levée en Île-de-France. 15 départements sont encore concernés par ce gros épisode neigeux. On voit ça après les autres titres.
Au Royaume-Uni, contrainte par sa majorité, Theresa May veut maintenant engager de nouvelles discussions avec l'Union européenne sur le Brexit. Elle a eu l'accord hier du Parlement, mais Bruxelles s'y oppose catégoriquement. Le revirement du gouvernement sur les djihadistes français prisonniers en Syrie. Il est désormais question de les rapatrier en France pour les juger. Les GAFA, enfin taxés, les pays de l'OCDE viennent de trouver un accord, États-Unis compris. Et puis dans les salles de cinéma aujourd'hui, si Beale Street pouvait parler ou quand l'amour est plus fort que le racisme, on retrouvera Eva Bettan en fin de journal.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Le nouveau chouchou du président. Il est le ministre qui monte à en croire la presse, Emmanuel Macron ne ferait même plus rien sans lui. Il l'a nommé responsable du grand débat national et justement pour faire un point d'état près de 3 semaines après le lancement du grand débat, on reçoit Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires.
Et à 8h20, le voilà le grand débat, il est lancé, vous venez de le dire Léa, mais la page de la crise est-elle tournée? On posera la question au président du Modem, François Bayrou, dans le grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Depuis moins d'une heure maintenant, la vigilance orange, neige et verglas qui concernait une trentaine de départements a donc été abaissée à 15 départements du nord et du centre-est du pays. Vigilance donc notamment levée en région parisienne. L'épisode neigeux est en train de se déplacer vers l'est du pays où vous vous trouvez. Sébastien Sabiron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur la Nationale 4 entre Paris et Nancy à Tournan-en-Brie exactement. Il y a environ 15 cm de neige ce matin sur la chaussée.
La situation semble plutôt bien anticipée ici sur cette nationale. Le principal axe, on dit Nancy à Paris, je l'ai emprunté sur quelques kilomètres et les voies sont dégagées, même si bien entendu les automobilistes roulent au pas et que les 4 voies de circulation sont en train de se charger progressivement. Sur le réseau secondaire, en tout cas, c'est bien plus compliqué. La préfecture de Seine-et-Marne recommande d'ailleurs de ne pas l'emprunter. Ce matin, sur les quelques kilomètres qui me séparaient de la Nationale 4, il m'a fallu rebrousser chemin à un endroit en raison d'un arbre en travers de la chaussée, elle-même recouverte par endroits de 15 cm de neige. Alors aujourd'hui, en Seine-et-Marne, les transports scolaires ne sont pas assurés. Les poids lourds ne circulent pas non plus. Depuis hier, 19h, restriction de circulation sur les principaux axes. La préfecture de Seine-et-Marne indique avoir stocké depuis hier soir 1 millier de poids lourds.
Merci beaucoup Sébastien Sabiron. Désolé pour cette liaison médiocre. Dans le sud-ouest, 20 000 clients sont encore privés d'électricité. À Orly, plusieurs vols ont dû être annulés. Hier, la RN 118 qui relie les Ulysses en Essonne au sud-ouest de Paris est toujours fermée à la circulation et les transports scolaires ont été suspendus dans plusieurs départements un peu partout. Il a donc fallu prendre ses précautions en Bourgogne, à Autun où il a beaucoup neigé. Christophe Vincent a rencontré Quentin, pas vraiment rassuré à l'idée d'aller travailler.
J'aimerais mieux rester dans mon lit. J'ai super peur de glisser avec ma voiture et je sais pas si en plus les routes vont être dégagées. Ça me fait un peu peur.
À chaque fois qu'il neige comme ça, une petite inquiétude quand même.
Ah bah oui, surtout que en fait je suis en alternance, donc une fois à l'entreprise à Autun et une fois à Chalon, donc surtout quand je vais à Chalon, ça m'inquiète beaucoup.
Et là, c'est où? C'est Chalon ou
l'entreprise. Donc ça va, c'est à 5 minutes de chez moi, mais bon, c'est que je suis quand même inquiet.
La voiture est équipée, non?
Oui, pneus neige.
Des fois, ça suffit pas.
C'est vrai. Il suffit d'une plaque de verglas et après, voilà. Et c'est quand même amusant, mais le week-end, quand on travaille pas.
Voilà, et sachez que la vigilance orange au vent, il y en avait un petit peu dans le micro de Christophe Vincent, a été levée. Et puis, je vous rappelle donc que la vigilance orange à la neige et au verglas ne concerne plus que 15 départements du nord et du centre-est du pays.
Il est 7h04, Nasser à l'étranger. Dialogue de sourds sur le Brexit entre Theresa May et l'Union européenne.
Après des mois de négociations, la première ministre britannique a obtenu hier de justesse un mandat de son Parlement pour rouvrir les négociations. À 2 mois de la sortie prévue de l'Union européenne, Theresa May entend remettre en question le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité visant à éviter le retour à une frontière physique entre les deux Irlandes. Autant dire que la perspective d'une sortie en douceur de l'Union européenne par le Royaume-Uni est de moins en moins d'actualité. L'Union européenne, Antoine Gignot, est fermement opposé à une reprise du dialogue.
Theresa May le dit elle-même, ce ne sera pas facile, car Donald Tusk, le président du Conseil européen, refuse catégoriquement de recommencer à parlementer, tout comme Emmanuel Macron, le président français le répète, le texte de l'accord n'est pas renégociable. Mais pour la Première ministre, ce n'est peut-être pas le plus important. Qu'elle obtienne ou non des concessions de la part de Bruxelles, ce vote de l'Assemblée qui lui donne un mandat pour rouvrir les discussions lui permet, pour la première fois depuis des mois, de s'appuyer sur les députés et de proposer une solution à la crise en faisant endosser la responsabilité de l'échec du Brexit aux Européens et en gagnant du temps. Dans deux semaines, Theresa May doit revenir au Parlement présenter ses résultats. Les élus seront ensuite en vacances et il ne restera au final qu'un mois environ pour trouver une solution au Brexit avant la sortie programmée le 29 mars. Les députés, au bord de la falaise, accepteront peut-être à ce moment-là de valider l'accord actuel sans avoir obtenu aucune concession. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
À l'étranger toujours, Nicolas Maduro vient de l'apprendre d'y être prêt pour la première fois à ouvrir des pourparlers avec l'opposition vénézuélienne, avec, dit-il, la participation de médiateurs internationaux. La justice a interdit hier à l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président du Venezuela, de quitter le pays. Elle a également gelé ses comptes bancaires. Le chef du Parlement de 35 ans fait l'objet d'une enquête préliminaire. Et puis de leur côté, les États-Unis ont brandi la menace de nouvelles sanctions en direction du président Maduro, tout en appelant ses ressortissants à ne pas se rendre au Venezuela. C'est l'une des premières conséquences politico-diplomatiques de l'annonce du retrait des États-Unis de Syrie. Les autorités françaises seraient en train de préparer le rapatriement des 130 djihadistes, femmes et enfants, prisonniers au Kurdistan syrien. Sarah Guibaudeau.
Jusqu'ici, la France refusait de rapatrier ses ressortissants, malgré les appels des forces kurdes qui n'ont ni les moyens de les juger, ni de les garder. Pour la première fois, le ministère des Affaires étrangères dit étudier toutes les options pour éviter, je cite, l'évasion et la dispersion de ces personnes potentiellement dangereuses. Marie Dosé est l'avocate de plusieurs Françaises détenues dans le camp de Roge, en Syrie, qui arrivent parfois à lui faire passer quelques messages.
Ce qui est porté à ma connaissance, mais avec toutes les précautions que cela implique, c'est que depuis quelques jours, les services de la DGSI seraient sur place pour s'entretenir avec elle et évoquer effectivement le rapatriement des enfants, mais également des mères. Nous savons depuis plus de 18 mois que de toute façon, le Kurdistan syrien ne peut pas les juger.
C'est un espoir pour ces femmes qui craignaient de devoir faire rapatrier leurs enfants sans elles. Le gouvernement insiste sur le fait que s'ils rentrent, les djihadistes seront judiciarisés. Avec le cas échéant, mise en examen et détention provisoire, une vingtaine d'hommes seraient notamment concernés. L'administration pénitentiaire s'est déjà préparée à les accueillir.
Trois juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'explosion de la rue de Trévise à Paris qui a fait 4 morts le 12 janvier dernier. Le parquet de Paris a ouvert hier une information judiciaire contre X, notamment pour homicide involontaire. Peut-être bientôt la fin de l'évitement fiscal pour les géants du web, les GAFA. Après la France et le Royaume-Uni, les 127 pays de l'OCDE viennent de s'engager à taxer l'économie numérique. Laurent Kramer.
Après des années d'impasse et de blocage venus des États-Unis, cette annonce est assurément sur le principe un tournant historique. Enfin, la possibilité d'inventer une nouvelle fiscalité pour les géants du numérique, souligne Pascal Saint-Amand, spécialiste de l'évasion fiscale à l'OCDE.
Il y a un accord des États-Unis de discuter d'une solution et les États-Unis jusqu'à présent bloqués. Or, la plupart de ces entreprises sont basées aux États-Unis. Donc, il est essentiel que les États-Unis acceptent de jouer le jeu. Donc oui, c'est peut-être le début d'une conversation qui va permettre d'arriver à une solution. Taxer toutes les entreprises, qu'elles soient présentes physiquement ou pas, Google ou Netflix sont pas présents physiquement, mais même des entreprises comme McDonald's ou Nike, que toutes ces entreprises soient concernées et que les pays puissent taxer là où les activités prennent place.
Un accord international que l'on imagine malheureusement à minima, estime de son côté Éric Vernier, spécialiste de la taxation des géants du numérique à l'IRIS.
L'annonce est quand même importante, on ne peut pas le nier. Maintenant, c'est toujours le problème de savoir ce qui va se passer réellement derrière. Même l'Allemagne et la France n'ont pas trouvé d'accord à deux. À 127, ça me semble d'autant plus compliqué.
Une nouvelle fiscalité internationale, y compris à minima, resterait malgré tout une avancée, souligne Bercy, et n'empêchera pas la France de maintenir sa propre taxation des géants du numérique sur le sol français.
Inter 7h10, le grand débat national. Nasser se poursuit un peu partout en France.
Et il s'invite aussi, on en parle moins, dans les centres urbains. France Inter a décidé de s'arrêter ce matin à Poissy, dans les Yvelines. 37 000 habitants. trois heures d'échange hier qui ne se résume pas seulement à des doléances en direction du gouvernement. Chacun peut échanger et vous allez l'entendre. Les habitants ont parfois du mal à se comprendre. Reportage sur place, signé Claire Chaudière.
Bon, on va y aller.
Deux minutes, pas plus de temps de parole par personne. Dès le départ, les idées fusent.
Moi, j'étais pour la suppression des niches fiscales.
Peut-on vérifier que les présidents de nos grandes entreprises payent leurs impôts en France?
L'impôt sur le revenu, même les gens du RSA devraient être taxés à 1 euro au moins symbolique.
Attendez le micro.
Justice sociale et fiscale, équité et transparence reviennent encore et encore.
Il y a des pays qui publient les notes de frais des députés notamment. Mais moi, je voudrais bien les consulter.
Puis la question des aides sociales s'impose à plusieurs reprises, déclenchant même quelques tensions.
On est confronté quotidiennement à « je ne vais pas venir travailler parce que j'ai du chômage, j'ai des aides ».
Madame, j'ai l'impression qu'on fantasme où il y a des quartiers où les gens vivent de l'assistanat, ce qui est complètement faux.
À la sortie, certains sont un peu assommés, comme Mohamed et Corinna.
Il faut qu'on se rassemble. J'ai l'impression qu'on est en train de cliver les populations entre elles. Et ça, c'est très dangereux.
Je suis plutôt inquiète des référendums, tout ça, parce qu'il y a une non-acceptation de l'autre.
Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas du tout les mêmes avis.
Cécile, elle, a bien constaté des divergences, mais porte un regard plus positif sur la soirée.
Je trouve ça vraiment bien, justement. Les gens commencent à parler.
Et sur l'état de notre société.
Si on n'a plus l'échange, où les gens se ferment, c'est là où la violence apparaît.
Ce soir, elle quittera la salle des débats plutôt apaisée.
Et je vous rappelle que ce soir, Édouard Philippe, le Premier ministre, est l'invité exceptionnel du Téléphone Sonne. Téléphone Sonne spécial, attention, de 19h à 21h. Toutes vos questions sur franceinter.fr. Avant de passer au cinéma, ce résultat de football, le calvaire continue décidément pour Monaco, battu hier par Guingamp en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Bretons se sont qualifiés au tir au but alors qu'ils étaient menés 2-0 ce soir. Bordeaux-Strasbourg dans l'autre demi-finale. Le quartier d'Harlem, dans les années 70, une erreur judiciaire sur fond de racisme et une merveilleuse histoire d'amour. Si Beale Street pouvait parler, sort dans les salles à partir d'aujourd'hui. C'est un film France Inter, signé Barry Jenkins, réalisateur de Moonlight, Oscar du meilleur film en 2017. Eva Béton.
Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont noirs et ils s'aiment. Barry Jenkins les filme comme le premier homme et la première femme sur Terre. Comme un rêve, comme un conte, très stylisé, si on devait chercher des références entre les parapluies de Cherbourg et le romanesque de Wong Kar-wai. Contrastant avec la laideur du racisme, leur beauté physique et morale est un choix de mise en scène. Barry Jenkins.
J'ai décidé qu'ils étaient dignes d'amour, qu'ils devaient être traités avec tendresse. On a l'habitude de voir des images de Noirs dépouillées de leur innocence, de leur pureté, de leur tendresse. C'était important de montrer ces vertus chez mes personnages, tout en racontant l'histoire d'un système injuste, une histoire très politique.
Voilà que le jeune homme est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est noir, donc un coupable idéal. Barry Jenkins met l'accent sur un aspect majeur du racisme, le volet policier et judiciaire. Le film Dossier n'est pas sa manière, on l'aura compris. Nous passons du rêve au cauchemar avec toujours ce souffle, cette noblesse qui donne à l'histoire des accents d'éternité, au racisme l'envergure de la tragédie.
Si Beale Street pouvait parler, inspiré du livre du grand écrivain noir américain James Baldwin, au cinéma à partir d'aujourd'hui.
Nasser Madji, merci.